cette invitation m'a fait très plaisir parce que je crois que c'est très, très important que les pédopsychiatres, les psychiatres fassent l'effort de diffuser leurs connaissances. Parce que je crois qu'on a trop vite fait de dire que les psychiatres, les psychologues ou les psychanalystes sont des gens obscurs et qui compliquent tout à plaisir. En ce qui me concerne, en tant que pédopsychiatre et psychanalyste, je ne me sens absolument pas le devoir d'être hermétique, d'être opaque, coûte que coûte. Et permettez-moi d'ailleurs de dire que je ne crois pas du tout que la psychiatrie soit plus mystérieuse par essence, que les sciences dites fondamentales. Par exemple, chacun sait très bien, sent très bien de quoi on parle quand on parle d'amour, de haine, quand on parle de chagrin, quand on parle de tristesse, d'imaginaire ou de culpabilité, alors que je ne suis pas du tout sûr que tout le monde se représente avec précision ce que c'est qu'un chromosome, un gène, un allèle, une délétion sur le télomère ou sur les satellites lointains du chromosome. Il y a donc vraiment un étonnement de voir pourquoi dans le grand public il y a une espèce de fascination et de prime aux neurosciences qui sont compliquées à comprendre, et on a plus de mal à faire comprendre nos positions en termes de psychiatrie ou de pédopsychiatrie, alors que je crois qu'on touche, on parle, on évoque des choses qui sont beaucoup plus familières au vécu quotidien de chacun. Sans doute est-ce une question de communication, et j'ajouterais encore que les sciences humaines n'ont pas, je crois, à être opposés de manière conflictuelle aux sciences fondamentales dites pures et dures, comme si d'ailleurs les sciences humaines étaient par définition impures et molles. Je crois que c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. La psychiatrie et la pédopsychiatrie appartiennent aux sciences humaines. À ce titre, elles ont une prétention légitime à la scientificité, mais elles sont probablement plus proches des sciences narratives que des sciences expérimentales, plus proches des sciences narratives, à qui d'ailleurs on refuse beaucoup moins qu'à la psychologie, à la psychiatrie, à la psychopathologie, à la psychanalyse, le statut de science. Paul Ricoeur a dit « L'être humain est un être de narration, son identité est une identité narrative, l'histoire est tout... » J'y reviendrai bien sûr dans mon exposé. « L'histoire est au cœur du développement de l'enfant, de l'adolescent, du bébé, et au cœur de la question de ses troubles aussi. » On dit parfois l'histoire bégaye, mais elle ne se répète pas. Et je crois que c'est fondamentalement le cas de la rencontre clinique également, qui est à l'évidence un processus éminemment singulier et unique. J'ajoute enfin que les sciences expérimentales, on les dit parfois fondamentales, elles ne le sont pas plus que les sciences humaines, et en tout cas, je ne crois pas du tout qu'elles soient plus fondatrices. En tout cas, en 2004, c'est-à-dire au tout début du XXIe siècle, on est un petit peu à la croisée des chemins. En ce sens que le XXe siècle aura été celui de la découverte du code génétique, et on a pu dire que le XXIe siècle serait celui de la compréhension de la pensée, de la cognition, mais aussi et surtout peut-être des mécanismes du désir. Est-ce que notre siècle saura relever ce défi? En tout état de cause, il s'agit d'un chantier enthousiasmant, et j'espère que mon enthousiasme indestructible sera ce soir contagieux. Étant entendu, mais vous l'avez dit, que je ne parlerai que de pédopsychiatrie et non pas de psychiatrie comme ça avait pu être sur certaines affiches. Alors, par rapport à la perspective de l'Université de tous les savoirs, je pense qu'il faut bien sûr faire une petite recension rapide d'un certain nombre de données actuelles en matière de pédopsychiatrie. Et je crois qu'il est intéressant aussi, je le ferai dans un deuxième temps, de réfléchir aux enjeux conceptuels de ces nouvelles données, notamment du point de vue constructiviste, structuraliste et phénoménologique. Et enfin, je terminerai par quelques indications, quelques pistes de réflexion quant à la place de la pédopsychiatrie dans notre société actuelle. Alors, rapidement, enfin pas trop, points forts, quelques acquis actuels en matière de pédopsychiatrie. D'abord, il faut dire que, je vais être très, suivant un plan tout à fait chronologique, la pédopsychiatrie ne commence pas, bien sûr, avec la naissance de l'enfant. Il y a toute une série de choses que je veux évoquer concernant l'avant-naissance, le fœtus, le psychisme des parents dans l'attente du bébé. Il y a là des choses tout à fait essentielles, et donc je suivrai un plan tout à fait simple, le fœtus, le bébé, l'enfant et l'adolescent, pas du tout pour être complet, mais pour essayer de montrer les lignes de force de la réflexion actuelle. Alors effectivement, il y a l'émergence progressive d'un champ de connaissances dont le terme peut un petit peu surprendre ou choquer, qu'on appelle actuellement la psychiatrie fœtale, et qui fait partie intégrante de la psychiatrie périnatale, sur laquelle je reviendrai plus tard. Il y a quelques jours, à Paris, le week-end dernier, s'est tenu un colloque à l'initiative de Daniel Brun et de l'Université Paris 7, dont le titre était « Passion pour l'embryon ». Un colloque sous la rubrique « Médecine et psychanalyse ». Et je crois que c'est intéressant de réfléchir au fait que, effectivement, l'embryon, le fœtus, mais l'embryon encore plus, se situe vraiment au carrefour de notre curiosité pour l'énigme du dedans. Qu'est-ce qui se passe au-dedans du corps maternel? Qu'est-ce qui se passe au-dedans de l'utérus? Il y a des images absolument fantastiques qui apparaissent actuellement sur l'utérus, l'embryon dans l'utérus, en train de jouer, de s'amuser, semble-t-il. Au carrefour de cette interrogation sur l'énigme du dedans du corps maternel et notre interrogation aussi quant à la quête de nos origines. J'y reviendrai plus tard. On sait maintenant que le fœtus, l'embryon, puis le fœtus, vont avoir très vite des capacités sensorielles, avec suivant un certain ordre d'ailleurs, d'abord des capacités au niveau du tact, puis des capacités au niveau de l'olfaction, puis des capacités au niveau du goût. Le fœtus est très sensible au goût du liquide amniotique, et puis vous savez que le fœtus, quand on a pénétré l'intimité de l'utérus, on a vu des fœtus en train de sucer leur pouce, donc le tact et le goût sont très, très, très vite développés, puis l'audition en fin de grossesse et la vision. Mais bien entendu, percevoir, inscrire des sensations, réagir à des stimuli sensitifs ou sensoriels ne veut pas dire pour autant que le fœtus ou l'embryon, que le fœtus pense. Et il y a là déjà toute une réflexion à avoir sur le niveau de conscience d'un individu, aussi jeune soit-il. Et les philosophes nous ont aidés à bien distinguer une conscience thétique qui est capable de dire « je pense » et une conscience non thétique qui est une forme de conscience, comme il en existe dans le règne vivant, mais sans cette capacité de réflexivité, sans cette capacité de dire « je ». Alors, on a bien sûr beaucoup d'hypothèses actuelles sur le développement des aptitudes du fœtus en termes de représentation, de perception, de sensorialité. Je crois qu'il faut être prudent et ne pas trop décrire le fœtus comme déjà un être pensant dans toute l'acception du terme. Mais par contre, ça n'est pas indifférent que les adultes le pensent pensant, même si c'est quelque chose qui est très anticipé. Et l'essentiel des nouvelles connaissances en pédopsychiatrie concernant la période prénatale concerne en fait ce qui se passe dans la tête des parents. Et dans la tête des parents, avant la naissance, parfois très longtemps avant la naissance, mais en tout cas pendant la grossesse, il y a tout un travail psychique qui s'effectue en termes de représentation de l'enfant à venir. Bien sûr, je ne fais que citer certaines choses, c'est pour vous montrer les lignes de force. On parle parfois de l'enfant fantasmatique, l'enfant imaginé, l'enfant narcissique, celui qui va combler toutes nos attentes, l'enfant culturel, les représentations de l'enfant dans une société donnée, à une époque donnée. Tout ceci permet aux parents, soit inconsciemment, soit plus consciemment, dans des rêveries préparatoires à la naissance de l'enfant, de faire une place progressivement à ce nouvel être qui va venir déranger, il faut qu'il vienne déranger quelque chose dans le fonctionnement du couple qui existe jusque-là. Et les pédopsychiatres commencent à travailler dès cette époque parce qu'on peut beaucoup aider, alors je ne sais pas s'il s'agit d'une nouvelle thérapie, mais c'est un nouvel angle d'approche en tout cas, on peut beaucoup aider les couples à préparer un accueil psycho-affectif de meilleure qualité en travaillant avec eux pendant la grossesse. Il y a deux situations qui pour nous ont été très instructives. C'est la situation de l'assistance médicale à la procréation et la situation de l'adoption. On a là des couples qui en général sont obligés d'attendre assez longtemps avant d'être parents, soit parce qu'il faut traverser toute la période d'infertilité, d'examen, d'investigation qui précède, soit parce qu'il y a un échec total de la fertilité et recours à l'adoption. Et alors on voit chez ces parents, il y a un risque qui est que toutes ces représentations que je viens d'évoquer, enfant imaginaire, enfant fantasmé, enfant narcissique, enfant mythique, se figent. Hein. Plus on attend, plus les choses se précisent. Elles se précisent trop dans la tête des parents. Alors qu'on sait maintenant que pour que l'enfant arrive dans de bonnes conditions, il faut que les parents soient prêts à une certaine forme de surprise. Il faut qu'ils puissent être surpris. S'ils attendent un enfant trop précis, trop longtemps rêvé, trop longtemps espéré, l'enfant qui va naître, l'enfant de chair et d'os, est forcément différent de l'enfant de leurs idéaux et de leurs espoirs. Et le décalage peut être parfois très douloureux pour les parents. C'est un chapitre relativement nouveau, tout à fait intéressant de la pédopsychiatrie, que d'aider les parents, les futurs parents, à redonner du jeu à leurs pensées concernant l'enfant à venir, afin que celui-ci puisse ne pas être trop décevant. Donc les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'assistance médicale à la procréation ou de la préparation à l'adoption est un chapitre qui est en pleine expansion et où on a, je crois, là, un rôle peut-être pas de thérapie mais de prévention en vue d'augmenter la qualité de l'accueil. Alors je ne vais pas revenir sur cette question, le fœtus pense-t-il, le fœtus ne pense-t-il pas, je vous en ai dit deux mots à l'instant. Je crois que ce qu'il faut sentir, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu illusoire et utopique aussi, et presque un petit peu démodé, de vouloir chercher le point zéro de la pensée chez le fœtus, l'embryon, le fœtus ou le bébé. La pensée, ça naît dans la relation. Ça naît dans l'interaction. La naissance de la pensée, on n'a pas à l'étudier seulement au niveau de l'enfant, on a à l'étudier au niveau du système des relations qui vont se créer entre lui et son environnement. Et de ce fait, la naissance de la pensée est beaucoup plus progressive, beaucoup plus interactive, beaucoup plus hétérogène aussi. Il n'y a pas un jour où tout d'un coup, on pourrait dire à telle date de la grossesse ou à telle date de la naissance, l'enfant se met à penser. Non. C'est beaucoup plus imbriqué. Et probablement à la naissance, d'ailleurs, il peut y avoir des parties du psychisme du bébé qui, en quelque sorte, sont déjà nées parce qu'elles ont été contenues, transformées, pensées par l'adulte, et d'autres parties du psychisme de l'enfant qui restent à naître, bien sûr, pendant tous les premiers temps de son développement. D'ailleurs, dans ce colloque dont je parlais à l'instant, où il était question beaucoup d'éthique, quelqu'un a fait remarquer qu'au fond, il était plus facile de définir la fin de la vie psychique, la mort psychique, plutôt que de définir les débuts de la vie psychique. Et je crois que c'est une autre façon de dire ce que j'essayais de pointer là, parce que pour mourir à la pensée, bien entendu, les autres peuvent parfois attaquer et notre pensée et même nous faire mourir psychiquement. Je crois que le XXe siècle nous a bien montré que les expériences totalitaires ou nazies, l'autre peut faire mourir quelqu'un à la pensée. Et dans la plus grande partie des cas, on n'a besoin de personne pour mourir à la pensée. On peut mourir tout seul. Alors que pour naître à la pensée, on a absolument besoin de notre corps et du système de relation avec autrui. Ça fait une très grosse différence entre les deux processus. Un dernier mot à propos du prénatal et du fœtus, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus loin, mais un dernier mot pour l'instant, la pédopsychiatrie s'intéresse maintenant beaucoup aux racines prénatales d'un certain nombre de processus, et notamment aux racines prénatales de la sécurité ou de l'insécurité de l'attachement. On reparlera tout à l'heure de l'attachement. L'attachement se construit bien sûr une fois le bébé naît, mais il est tout à fait possible qu'il y ait des précurseurs à la sécurité ou à l'insécurité du futur bébé en termes d'attachement. Ce qui se passe pendant la grossesse, la manière dont les parents vivent la grossesse, la manière dont les parents rêvent ou rentrent en contact un petit peu avec leur fœtus à travers des techniques d'aptonomie, par exemple. Tout ça, probablement, a un rôle sur la qualité de l'attachement futur. Et un des grands enjeux, hier je crois qu'il y avait Arnold Munich qui a parlé ici, un des grands enjeux de la pédopsychiatrie, de la pédiatrie, de la génétique, dans les années qui viennent, ça va être d'essayer, ce qui est très difficile, de faire la part entre ce qui est, pour les choses qui sont très vite présentes à la naissance, de faire la part entre ce qui est génétiquement inscrit dans notre génome et de ce qui est acquis, mais acquis très précocement et acquis en prénatal. Ce n'est pas parce que quelque chose est tout de suite présent que c'est génétique. Peut-être que ça a pu se construire en partie dans les relations au cours de la vie intra-utérine. Quelques repères conceptuels maintenant à propos du bébé. Et là, il faut quand même, dans l'histoire des idées, dans le mouvement des connaissances, remarquez que la psychiatrie du bébé, on dit bébé maintenant, hein, on ne dit plus nourrisson, parce que nourrisson, ça fait quand même très tube digestif, on dit bébé. Je vais y revenir d'ailleurs, parce que bon, les parents savent depuis Adam et Ève, les parents savent que leur bébé est un bébé. Mais c'est très récent que les professionnels parlent vraiment du bébé en termes de bébé et non pas de nourrisson. Je vais y revenir. Mais en tout cas, la psychiatrie du bébé, elle est en plein essor depuis le dernier tiers du XXe siècle, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Et vraiment là, il faut remarquer que tout a démarré après la sortie, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Les enfants, les bébés en particulier, ont payé un très très lourd tribut à ce conflit dramatique. Il y a probablement eu, chez les adultes à ce moment-là, une culpabilité importante de tout ce que les adultes avaient fait subir aux enfants. Et alors c'est là qu'on a vraiment changé de vision concernant parmi les professionnels à propos du bébé. Jusque-là, on parlait beaucoup de nourrissons, hein, je vous ai dit, c'était une vision très passive, un tube digestif, une entrée, une sortie, on s'obsédait sur l'alimentation, l'excrétion, un nourrisson qui dort beaucoup, qui crie de temps en temps, qui se réveille un tout petit peu, enfin, et qui reçoit tout de l'extérieur. C'est l'ancienne vision. Tout d'un coup, s'est mis en place une vision très différente, une vision beaucoup plus active d'un bébé acteur de son évolution, de sa maturation, qui est d'emblée capable de se tourner vers l'autre, d'engager la relation, de se désengager. Un bébé actif, à la différence du nourrisson un peu passif. Et c'est très intéressant de voir qu'au moment où les professionnels, donc dans les années 45-50, au moment où les professionnels ont accordé officiellement au bébé une espèce de droit à la vie psychique, ils l'avaient sans qu'on la lui donne, mais enfin, à partir de là, on le lui a accordé officiellement, alors on a été obligé de décrire ce qui va avec la vie psychique, malheureusement, inéluctablement, c'est la souffrance et la folie. Et c'est au même moment qu'on a eu les deux premières grandes descriptions pédopsychiatriques, celle de l'autisme infantile, dont on reparlera tout à l'heure, dans les années 43-45, par Kanner, et les dépressions du bébé. Les dépressions du bébé, dont on ne parlait pas jusque-là, et dont on a commencé à parler avec Anna Freud, Dorothy Burlingame, pendant la guerre, les bombardements à Londres, et puis Spitz, Bowlby, Robertson, etc. Je crois que c'est... Il n'y a pas de vie psychique sans son ombre portée, qui est le risque de folie et de désorganisation ou d'anarchie psychique. Et il me semble que c'est pour ça, que c'est au même moment historiquement qu'on reconnaît au bébé son statut de personne et qu'on décrit les premières grandes pathologies de sa vie mentale. Et puis alors, là, les choses se sont emballées. Il y a eu une explosion des connaissances à propos du bébé, et tout s'est un petit peu passé comme si on remontait quoi, vers les temps les plus précoces. Hein. C'est dans l'histoire des connaissances souvent comme ça qu'on fait. On étudie d'abord quelque chose dans sa fonction adulte, mature, et puis on remonte pour essayer de voir ce qu'il y a en amont, les précurseurs, les prérequis. C'était pareil en psychiatrie. On a d'abord eu la psychiatrie de l'adulte, éventuellement de la psychiatrie du vieillard, puis on a eu la psychiatrie de l'adolescent, et puis la psychiatrie de l'enfant, et puis la psychiatrie du bébé, et puis la psychiatrie fœtale dont je vous parlais tout à l'heure, et certains annoncent un jour la psychiatrie des gamètes, mais ça c'est peut-être un petit peu plus insaisissable. Enfin, en tout cas, il y a dans ce mouvement des connaissances, encore que les gamètes soient déjà sacralisés. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'assistance médicale à la procréation. Les gamètes sont un trésor. Mais quand même pas un trésor pensant. Alors, on est remonté comme ça donc vers les âges les plus précoces, et on s'est aperçu que, c'est ce que je voudrais dire surtout, c'est que la psychiatrie du bébé n'est pas simplement une petite tranche de plus qu'on ajoute à la discipline psychiatrique. C'est un nouvel angle d'approche d'un certain nombre de problématiques fondamentales dans la réflexion de l'humain sur lui-même, et avec des mots qui sont un petit peu barbares, c'est pour ça que vous les avez un tout petit peu écorchés tout à l'heure, mais en fait ils sont simples. C'est des problèmes d'ailleurs sur lesquels se penchent depuis toujours les linguistes, les anthropologues, les philosophes, mais auxquels la pédopsychiatrie apporte un nouvel angle d'approche. Comment est-ce qu'un bébé devient une personne? Comment est-ce qu'un jour il va pouvoir dire « je » Comment il va pouvoir sentir que « je » et l'autre, c'est pas pareil? Que « je » et l'autre, ça fait deux. Un jour, il pourra dire « je », mais avant de pouvoir dire « je », il va le sentir dans les courants des premiers mois de sa vie. Comment ça se met en place? Processus de subjectivation. Comment on devient un sujet? processus de symbolisation. Comment il va, dans toutes ces stimulations sensitives, sensorielles, comment il va arriver à symboliser, catégoriser et symboliser quelque chose de tout ça, symbolisation ou pré-symbolisation. Comment il va entrer dans le monde des signes. Pendant très longtemps, on a eu une linguistique très statique, enfin très intéressante, celle de Saussure, qui a montré comment le langage fonctionne chez les adultes. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment on arrive à ce système de signes. Comment le bébé entre dans le système des signes, sémiotisation, et des significations, sémantisation. Et là, il lui faut son corps, il lui faut l'autre. En Italie, Umberto Eco a écrit un petit livre remarquable sur la production des signes. Avec le bébé, ce qui nous intéresse, c'est pas les signes verbaux, il les a pas encore. Mais qu'est-ce qui, dans son fonctionnement, va lui permettre de les avoir un jour, et comment, avant de pouvoir parler, déjà il nous raconte beaucoup de choses, comment il est déjà dans le système de sémiotisation. Autour du bébé, donc, on a décrit différents registres d'interaction, je ne fais que les citer, bien sûr, les interactions fœto-maternelles, pendant la vie intra-utérine, mais après, des interactions comportementales, des interactions affectives ou émotionnelles, des interactions fantasmatiques ou imaginaires, et puis des interactions symboliques. Le bébé met en place ces différents niveaux d'interaction qui préfigurent, qui organisent, qui vont conditionner la qualité de ces relations ultérieurement. Et ce qui nous frappe actuellement aujourd'hui avec le bébé, parfois je le dis sous forme de boutade, en disant au fond le bébé est le plus grand des philosophes, parce qu'il est tout le temps en train de théoriser le monde qui l'entoure, de se donner un modèle du fonctionnement des adultes qui prennent soin de lui. Il est poète, hein, quand on est théoricien et poète, on est philosophe. Poète parce qu'il passe les informations d'un sens à un autre, il passe du tact à la vue, il éprouve les choses avec tous ses sens à la fois. C'est sans doute un très bon historien, j'y reviendrai, qui peut nous raconter certaines choses avec son corps et son comportement. C'est un très bon observateur. Les bébés sont des très bons cliniciens de ses parents. Certains d'entre eux, d'ailleurs, deviendront psychiatres ou psychanalystes. Ça vient de loin, ça. Donc, le bébé, il est formidable dans tout ça. Mais rien de tout ça, il ne peut le faire tout seul. Tout se co-construit. Et c'est pour ça que, dans la deuxième partie de mon exposé, j'en arriverai à une sorte de néo-constructivisme. Le bébé nous apprend que tout se co-construit. On peut avoir des petits modules, on peut avoir des chromosomes, on peut avoir des petits modules cognitifs de telle ou telle fonction, on peut avoir des modules de l'attention, mais n'empêche que c'est dans la relation qu'on va co-construire avec l'adulte qui s'occupe de soi un certain nombre d'aptitudes. Quand on voit que le bébé est capable de transférer des informations d'un sens à un autre, et qu'en face de lui, il y a un adulte, une mère, un père, enfin une fonction parentale, qui est aussi capable de lui répondre dans un canal de communication ou dans un autre, on a là tout un système de jeu extraordinaire à interroger du point de vue de la naissance, des métaphores dans l'espèce, de la capacité de métaphorisation dans l'espèce humaine. Encore une ou deux remarques conceptuelles avant d'entrer dans des faits plus cliniques. Le bébé nous a aussi appris que nos conflits d'adultes sont dérisoires. Mais dérisoires. Enfin, nos conflits d'adultes en matière de pédopsychiatrie ou de psychiatrie sont dérisoires. Hein, puisque depuis 30 à 40 ans, on assiste à un combat sans merci entre les théoriciens de l'attachement et les théoriciens de la psychanalyse. Ce combat est en grande partie stérile. L'attachement est né d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, la théorie de l'attachement de John Bowlby est née à un moment où la société dans le monde était très déconcertée. La guerre avait fait perdre un certain nombre de repères sociaux et culturels. Il y avait en tout cas toute une série de marques à retrouver. Et c'est intéressant de voir que la théorie de l'attachement, qui ne parle que de sécurité et d'insécurité au niveau de la construction de l'individu, est née à un moment où la société s'interrogeait elle-même sur ses conditions de sécurité ou d'insécurité mises à mal par le conflit précédent. Et alors, il y a eu un énorme débat entre les théoriciens de l'attachement et les psychanalystes. Les psychanalystes ont reproché à la théorie de l'attachement de court-circuiter la représentation mentale, d'être une théorie de la présence de l'adulte et non pas la théorie de son absence, comme dans la vision psychanalytique, ou bien encore que l'attachement évacuait la sexualité infantile. Quand on regarde un bébé, quand on s'occupe d'un bébé, tout ça est dérisoire, mais absolument dérisoire. Et la psychiatrie du bébé est une chance pour nos conflits théoriques. Le bébé, ce n'est pas qu'il est écuménique ou qu'il a envie de paix, mais quand on regarde un bébé, on le voit aussi bien, on peut le décrire aussi bien en termes d'attachement qu'en termes psychanalytiques. Ça ne se recouvre pas, mais il n'y a aucune incompatibilité de fond. Et le bébé nous aide, je crois, à transcender ces conflits d'école qui sont vraiment une très grande perte de temps. Enfin, le bébé nous apprend qu'on ne peut pas se construire sans le poids de l'histoire. Là, je m'arrête un instant parce que c'est vraiment un point crucial et qui d'ailleurs organise de nouvelles formes de thérapie très précoces qu'on appelle les thérapies conjointes parents-bébé. Le bébé va venir s'inscrire à l'exact entrecroisement de ces deux filiations, la filiation maternelle et la filiation paternelle. Serge Lebovici, à qui je dois beaucoup personnellement, insistait beaucoup là-dessus en disant qu'un bébé ne peut pas se construire s'il ne vient pas s'inscrire dans une histoire. Et l'histoire, une double histoire, l'histoire de ses parents et l'histoire de ses deux parents, qui sont parfois d'ailleurs des histoires difficiles à intriquer. Et il insistait sur la notion de mandat transgénérationnel inconscient. Il voulait dire par là qu'en naissant, le bébé hérite de la part de ses parents, d'un certain nombre de missions, que les parents ne se sont pas forcément formulées explicitement, mais qui, dans leur histoire à eux, ce bébé vient occuper une place particulière. Et ces mandats transgénérationnels inconscients peuvent être contradictoires. La mère attendant quelque chose de son bébé et le père en attendant quelque chose d'autre. C'est parfois ce qui va enfermer le bébé dans une impasse difficile à résoudre. Et on insiste aussi sur la différence entre affiliation et filiation. Et le bébé a besoin des deux. Comme je viens de le dire, il a besoin de venir s'inscrire dans une histoire. C'est le processus de filiation, s'inscrire dans une histoire. Mais il a besoin aussi de trouver sa place dans le groupe d'aujourd'hui, son groupe familial, son groupe social, son groupe culturel. Et il y a une dialectique très forte entre les deux. Parce que trouver sa place dans sa famille d'aujourd'hui permet de trouver sa place dans l'histoire de ses parents. Et trouver la place dans l'histoire de ses parents permet aussi de trouver sa place dans le groupe familial d'aujourd'hui. Donc dans nos thérapies, dans nos interventions précoces auprès des parents et des bébés, on a souvent à essayer de les aider à dégager, à expliciter, à clarifier ces mandats transgénérationnels pour les rendre moins inconscients et à leur montrer que parfois les troubles du bébé prennent un sens tout à fait éclairant en se référant à l'histoire des deux filiations. Pour dire les choses autrement encore, pour enfoncer le clou, je dirais que pour se construire, même les bébés ont besoin d'une histoire. Et d'une histoire qui ne soit pas seulement une histoire médicale, biologique ou génétique. L'histoire médicale, biologique et génétique est une histoire très importante. Et ils ont besoin d'une histoire qui soit aussi, peut-être surtout, pour les pédopsychiatres en tout cas surtout, qui soit une histoire relationnelle, qui vienne leur permettre de trouver sa place dans les deux au carrefour de ces deux filiations. Bernard Doré, qui s'occupe beaucoup de traumatismes des enfants, a eu un jour cette très jolie phrase en disant, je la cite de mémoire, un jour viendra où l'on pourra tout greffer, le foie, le cœur, les poumons, les reins, tout. Mais probablement, ce qu'on ne pourra jamais greffer, c'est l'histoire. Jamais il n'y aura de greffe d'histoire, parce que l'histoire, là aussi, se co-construit entre le bébé et les adultes qui en prennent soin. Et vous savez que l'histoire, partout, toujours, est la cible de toutes les dictatures, et chaque fois que dans nos modèles théoriques, ou que dans nos pratiques cliniques, nous oublions l'histoire, je crois qu'on fait vraiment violence au bébé et à l'enfant et qu'on est là dans une modélisation extrêmement réductrice et traumatique. Alors, sur le fond de tout ça, autour du bébé, s'est développée la psychiatrie périnatale qui ouvre un champ nouveau d'intervention extrêmement précoce. La psychiatrie périnatale, c'est une nouvelle façon de concevoir le bébé, en le concevant non plus comme un être isolé, mais comme la partie d'un système, père, mère, bébé, où tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Et peu importe dans quel sens ça marche. La dépression du bébé peut déprimer les parents. Les dépressions du parent peuvent déprimer le bébé. Ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Et de toute façon, rien n'est jamais linéaire. Il n'y a pas de donc. Je prends un tout petit exemple. Quand on dit une mère déprimée peut déprimer son bébé, encore une fois, le contraire est vrai. Mais une mère déprimée ne déprime son bébé que si tous les tiers qui auraient dû protéger le bébé de la dépression maternelle n'ont pas fonctionné. Donc on est au moins dans un système à deux dimensions, qui est la pathologie des difficultés de la mère peut-être, mais aussi la faillite de tous les mécanismes tiers qui auraient pu protéger ce bébé. Donc il faut, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, ne jamais lâcher le modèle polyfactoriel, sinon on va dans des systèmes linéaires où on va chercher des coupables. Et on ne peut pas travailler avec les gens si on les désigne comme des coupables. Donc la psychiatrie périnatale voit l'ensemble père-mère-bébé. C'est une partie de notre activité qui s'étend de la conception de l'enfant jusqu'à 12 ou 18 mois. C'est donc un peu plus large que la périnatalité des pédiatres. Le prépartum, avant la période prénatale, la période postnatale sont incluses. Et jusqu'à maintenant, bien entendu, on a beaucoup plus travaillé, on a beaucoup plus de résultats concernant la partie postnatale et la partie maternelle. C'est-à-dire que maintenant, on sait très bien décrire les difficultés que la mère peut rencontrer après la naissance de l'enfant. Le blues, les quelques jours qui suivent la naissance, les dépressions maternelles postnatales authentiques, qui sont très fréquentes, 10 à 15%, c'est un vrai problème de santé publique. Parce que pour un enfant, vivre aux côtés d'une mère déprimée sans que personne ne vienne en aide à la mère, c'est un facteur de risque énorme pour la suite. Et les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure de 10 à 15%. Il y a quand même peu de maladies ou de difficultés qui sont à 10 à 15% dans la population générale. Et puis enfin, beaucoup plus rare, heureusement, les psychoses puerpérales maternelles. Donc on a beaucoup travaillé en psychiatrie périnatale sur le postpartum et sur la mère, et il nous restera à beaucoup enrichir nos connaissances sur le prépartum, j'en ai déjà dit quelques mots, à ce qui se passe avant la naissance, mais non seulement pour la mère, mais aussi pour le père. Et encore une fois, c'est un problème de santé publique tout à fait essentiel, parce que les enfants qui vivent dans des conditions périnatales psychiques difficiles sont une population à risque. On les retrouve 5 ou 10 ans plus tard en excès dans nos consultations de pédopsychiatrie. Il y a donc là quelque chose qui est un chemin, une piste très efficace pour la prévention. Le cycle concerne les nouvelles thérapies, mais en pédopsychiatrie, on aime bien la prévention avant de soigner. Un petit mot sur les dépressions du bébé, un petit peu au-delà. C'est important de les dépressions du bébé, bon, le mot est un petit peu troublant parce qu'il est possible que le processus ne soit pas le même, n'est pas le même que celui qu'on décrit chez les adultes. Le mot est identique parce que ça renvoie à la tristesse. Hein, et la tristesse d'un bébé et la tristesse d'un adulte, ça se ressemble à voir. Mais les processus sous-jacents ne sont pas les mêmes. On a beaucoup affiné la théorie des dépressions du bébé. Différents modèles existent, soit en termes psychanalytiques, soit en termes d'attachement. On a beaucoup affiné la clinique des dépressions du bébé. On sait maintenant repérer des signes très précoces de retrait, d'hypotonie psychique, de ralentissement du bébé, d'un certain nombre de troubles psychosomatiques. Et pour l'instant, on a en revanche une épidémiologie extrêmement balbutiante parce qu'on n'a pas les bons outils. En dehors de la clinique, on n'a pas les bons outils pour comptabiliser en quelque sorte les bébés déprimés. Et personne aujourd'hui ne saurait dire, par exemple, s'il y a plus de bébés déprimés garçons que de bébés déprimés filles. Hein. Donc vous voyez, il y a de nouvelles données cliniques, mais on manque bien sûr, on manque encore de données épidémiologiques. Beaucoup de personnes actuellement s'obsèdent dans le domaine du bébé, toujours, encore un petit mot, sur les risques. Les bébés à risque. Et quand on parle des bébés à risque, on parle souvent, on a en tête souvent les bébés à risque autistique ou psychotique. Et c'est sans doute assez important, effectivement, de détecter ces bébés très tôt, parce qu'on peut leur éviter de s'engager dans une impasse autistique ou psychotique. Mais, je reviendrai sur l'autisme tout à l'heure, ce que je voulais signaler tout de suite, c'est que le bébé nous a appris que tout est ouvert. Et qu'il ne faut pas l'enfermer trop tôt dans un devenir étroit. En première année de vie de l'enfant, je crois qu'il ne faut pas avoir d'autre ambition, je vais prendre des mots tout simples, que de repérer les bébés qui ont besoin de nous. Hein, ce n'est pas un diagnostic psychopathologique très affiné, ça, mais c'est un diagnostic très pratique. On doit repérer les bébés qui ont besoin de nous, et ce n'est pas tellement important de savoir si c'est des bébés à risque autistique, des bébés à risque psychotique, des bébés à risque disharmonique, des bébés à risque déficitaire, des bébés à risque X ou Y, Parce que si on pense trop à un risque donné, paradoxalement, de manière un peu iatrogène, on risque de les enfermer là-dedans. Alors que ce qu'il faut repérer, c'est les bébés qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'une aide, qui parfois à ce moment-là peut être très efficace en étant relativement légère, et qui va leur réouvrir un avenir développemental plus libre. C'est déjà une manière de dire pour moi que dans notre champ, la prévention est essentielle, les bénéfices de la prévention sont immenses, tandis que la prédiction est une catastrophe. La prédiction est maléfique. Je ne sais pas si hier il a été question de médecine prédictive, c'est un concept très à la mode. Il a sans doute son charme dans d'autres disciplines. En psychopathologie, la prédiction est une catastrophe. Si on prédit aux gens ce qu'ils risquent de devenir, on les aide peut-être un petit peu à devenir ce qu'on craint. Alors il faut prévenir, il faut trouver les sujets, il faut repérer les sujets à risque, les sujets vulnérables, et il y a maintenant un certain nombre de signes chez le bébé qui sont des signes d'alerte, sans qu'on ait trop à se demander si c'est un risque de telle ou telle nature. C'est des bébés qui ont besoin de nous. Pour en finir avec les bébés, je dirais qu'en 2004, on sait mieux aujourd'hui ce qu'il faut faire pour être utile aux bébés. Mais il y a de multiples obstacles, des obstacles économiques, mais pas seulement, qui s'opposent très souvent à la mise en pratique de nos connaissances nouvelles. Et notamment, le fonctionnement psychique des bébés eux-mêmes, qui à la fois nous demandent, nous induisent en nous le désir de les entourer, de faire des liens, mais qui en même temps s'attaquent aux liens qu'ils suscitent. Et puis sans compter notre ambivalence à l'égard des bébés, parce que en dehors d'Adam et Ève, à qui ça n'a d'ailleurs pas porté chance, nous avons tous été des bébés au préalable, et que ça a laissé en nous des traces qui peuvent nous mettre en difficulté par rapport aux bébés d'aujourd'hui. Alors même quand on a décidé de s'occuper de bébés, il faut savoir que cette ambivalence est là, pour les parents elle est là, et toutes nos connaissances sont parfois assez difficiles à mettre en pratique. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans ce qu'on doit faire pour être utile aux bébés. Et ça a été le thème d'un des congrès du groupe francophone de l'Association mondiale de psychiatrie du bébé qui s'est tenu en décembre à Lille, où on a essayé de réfléchir tous ensemble à ce qui était parfois si difficile pour nous pour mettre en pratique ce qu'on sait maintenant d'utile dans la manière de s'occuper des bébés, en famille, mais aussi dans les crèches, dans les lieux de vie, dans les différents endroits où on les rencontre. Et je crois que je reviens encore sur cette idée, mais le XXe siècle, je crois, nous aura tout appris des manières de détruire l'individu. Je crois qu'il faut vraiment veiller à préserver les lieux où l'on sait désormais, il en existe, les aider à se développer harmonieusement. Il y a quelques-uns de ces lieux de par le monde, ils sont extrêmement précieux. Je profite avec le bébé, je dirais que les bébés, bon, c'est banal de le dire, sont l'avenir des humains, mais bien sûr c'est pas la psychiatrie du bébé qui va changer le monde. Mais la psychiatrie du bébé, elle peut changer les bébés, elle peut les aider à devenir des êtres plus solides, et c'est les bébés qui changeront le monde, s'ils en ont le temps. Alors, un mot à propos de l'enfant. Quand on pense à l'enfant en pédopsychiatrie, évidemment, le grand problème, le grand thème qui arrive, c'est l'autisme. Hein. Et en même temps, et fort heureusement d'ailleurs, ça ne touche que entre 1 et 5 enfants pour 10 000 naissances. Ça dépend un peu comment on comptabilise. Depuis qu'on utilise le DSM-3, on a l'impression qu'il y a une épidémie d'autisme. C'est assez peu probable. C'est probablement parce qu'on applique le terme d'autisme à des enfants qui n'étaient pas repérés comme tels auparavant. Mais l'autisme donc concerne heureusement un tout petit nombre d'enfants. Mais d'une part, l'autisme nous apprend énormément de choses sur la mise en place de la vie psychique. Et d'autre part, il y a, à propos de l'autisme infantile, une situation extrêmement douloureuse, car en France, les moyens se raréfient pour une prise en charge correcte de ces enfants en grande difficulté. Ce qu'on sait maintenant, c'est que l'autisme doit être vraiment considéré comme quelque chose qui ne tombe pas du ciel. C'est pas quelque chose qu'un jour, le bébé ne se réveille pas autiste. Il y a quelque chose, là aussi, qui se co-construit dans les interactions précoces, quelque chose qui s'infléchit de mauvaise manière très tôt, qui va être repéré très progressivement, mais qui, au début, est sans doute encore très plastique, très réversible. Et puis surtout, on parle beaucoup de génétique à propos de l'autisme infantile. Je ne sais pas si Arnold Munich en a parlé. Mais ce qu'on voit bien maintenant avec les enfants autistes, c'est que, bien sûr, il y a de la génétique là-dedans. Mais la génétique, ce n'est pas un destin dans l'espèce humaine, ce n'est pas une fatalité. La génétique, nous explique très bien, de mieux en mieux, ce que c'est que la vulnérabilité. Mais quand on est vulnérable, quand on est plus exposé qu'un autre à développer un autisme infantile, par exemple, il n'est pas encore sûr qu'on le développera. Tout va dépendre des rencontres qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que dans nos modèles de psychopathologie, il faut bien distinguer les facteurs primaires de vulnérabilité et les facteurs secondaires qui viennent fixer quelque chose. Et ce qui est très compliqué, mais très enthousiaste, très intéressant, c'est que ces deux types de facteurs, facteurs de risque et facteurs de fixation, sont tous polyfactoriels. Il y a du génétique, il y a du relationnel, il y a du social, il y a du culturel, éventuellement de l'écologique. Et on ne sait encore qu'une toute petite partie des choses, et donc il faut s'empresser de ne pas conclure en matière d'étiologie. La psychopathologie est toujours multiple, il y a des facteurs de tous ordres, et il y a deux étages. Il y a un étage des facteurs de risque, et un étage des facteurs de déclenchement et de fixation. En matière d'autisme infantile, il y a eu toute une époque où les gens ont cherché, je crois que peut-être certains le cherchent encore, le gène de l'autisme infantile. On ne le trouvera jamais, fort heureusement. Ce qu'on trouve, c'est une génétique des très complexes, c'est-à-dire des modèles beaucoup plus sophistiqués, des modèles qu'on appelle des modèles d'épigénèse épistatique, c'est-à-dire que la vulnérabilité, par exemple, pour l'autisme, semble requérir une configuration très particulière de 12 à 15 gènes répartis sur un certain nombre de chromosomes. Pour être, du point de vue génétique, pour être porteur d'un risque autistique, il faut que 10 ou 12 allèles soient dans une configuration particulière. Ce qui explique que dans la famille, à un degré de parenté, on trouve encore beaucoup plus d'autisme que dans la population générale, et à 2 degrés de parenté, ça s'effondre, parce que la configuration des 10 ou 12 allèles se perd évidemment très vite. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas de prix Nobel là-dessus demain matin, mais en revanche, il y a une ouverture possible et un optimisme thérapeutique beaucoup plus important. Parce que c'est ce sur quoi on travaille en pédopsychiatrie, c'est sur les facteurs secondaires, les effets de rencontre, ce qui va ou non donner à la vulnérabilité l'occasion de s'exprimer. J'ajoute, pour l'enfant, je dirais aussi qu'on parle tout le temps de bébé et d'adolescent. Toutes nos réflexions, beaucoup de crédits, beaucoup d'argent, enfin pas assez, mais beaucoup quand même, vont pour les bébés et pour les adolescents. Il ne faut pas oublier l'âge intermédiaire. L'âge intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'âge scolaire, l'âge de la période de latence, qui est une période extrêmement intéressante aussi, qui commence à repassionner un petit peu les cliniciens et les chercheurs. On montre maintenant que l'intelligence des enfants peut être très hétérogène, que les difficultés scolaires ne sont pas simplement comprises en termes de quotient intellectuel standard. Il y a des hétérogénéités dans l'organisation du raisonnement logique. Il y a des disharmonies cognitives. La latence est à nouveau devrait être un sujet d'intérêt. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre encore. Quels sont les liens entre les dépressions des enfants et les phobies, les troubles obsessivo-compulsifs? Il y a des champs de recherche tout à fait importants. Est-ce que les dépressions de l'enfance annoncent ou pas les psychoses maniaco-dépressives de l'adulte? Probablement pas. Et puis enfin, vous savez que à cet âge-là, on ne peut pas ne pas citer la question de l'hyperactivité qui défraie périodiquement la chronique et qui est emblématique de la pédopsychiatrie dans sa double composante, science et reflet de la société. Plus une société est agitée, moins elle supporte l'instabilité de ses enfants. Et il y a dans la définition de l'instabilité de grandes inconnues. Je crois que parmi les pédopsychiatres, on est tous d'accord pour penser qu'il y a un petit 1 ou 2% d'enfants qui, de ce point de vue-là, les processus de l'attention sont vraiment pathologiques. Mais après, il y a un flou, un gradient entre le normal et le pathologique. Et ce serait vraiment très désastreux considérer qu'il y a 5 à 8% d'enfants qui méritent des traitements dont la presse parle très régulièrement. D'autant plus que si on se donne le temps de comprendre quel est le sens d'un symptôme comme l'hyperactivité par rapport à l'histoire de la famille, j'y reviens encore, eh bien c'est pas simplement contemplatif, ça va nous aider à choisir des stratégies thérapeutiques. Il n'y a pas les amphétamines ou rien d'autre. Il y a peut-être des amphétamines pour certains enfants, mais il y a aussi des actions chez les petits, des groupes thérapeutiques, des aspects psychomoteurs, des relaxations, des guidances. Il y a toute une série de choses à penser en même temps que l'abord par les psychotropes, très intéressantes du point de vue de l'histoire. Quelques mots rapides à propos de l'adolescent. On n'a plus tout à fait la même notion qu'autrefois de la crise d'adolescence. Hein. D'ailleurs, dans le mot « crise », étymologiquement, il y a l'idée, c'est pas simplement la catastrophe, la crise. Ou alors, si c'est la catastrophe, c'est la catastrophe en termes de René Thom, c'est-à-dire la catastrophe comme changement d'état. Changement d'état, mais pas forcément dans le négatif, dans le structurant. Changement d'état, inscription quelque part de l'état précédent et dépassement de la période de transition qui a pu être tumultueuse. Mais en fait, il y a beaucoup mais dans le mot crise, étymologiquement, il y a surtout l'idée de mutation. Crisis en grec, ça veut dire transformation, mutation. Ça ne comporte pas de dimension péjorative. Et en fait, on considère qu'actuellement, l'adolescence est devenue, d'abord, elle est plus longue. Hein. On sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort, tout ça est bien connu. On a même créé d'ailleurs un nouveau stade, la post-adolescence, hein, pour excuser ceux d'entre nous qui n'arrivent pas à devenir vraiment adultes. Donc la post-adolescence peut s'éterniser. Il y a aussi des enfants qui passent directement de bébé à petit vieillard. Hein. Ça, c'est très embêtant aussi, ça, hein, parce que il faut pas jouer à saute-mouton avec les phases du développement. Mais l'adolescence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans nos sociétés occidentales actuelles, un décalage qui s'accroît entre la puberté physique et la puberté sociale. C'est-à-dire qu'entre le moment où la puberté s'est faite et le moment où l'enfant va devenir autonome du point de vue social, financier, etc., le temps est infiniment long. Ça peut être, vous savez bien, de nombreuses années, 10, voire plus. Et c'est difficile à passer, et dans nos sociétés occidentales où il n'y a plus de rite de passage, sur le plan théorique, on s'est dit que c'était finalement peut-être l'adolescence elle-même qui, en quelque sorte, dans toute sa durée, beaucoup plus chronique qu'un rite de passage, mais beaucoup plus étalé dans le temps, devenait une épreuve à traverser pour pouvoir accéder au stade suivant. En tout cas, l'adolescence est une période de renoncement multiple, de deuil, il faut laisser un certain nombre de positions, en accéder à d'autres. Il y a des mouvements dépressifs tout à fait physiologiques chez l'adolescent qui doit entrer dans son corps sexué, qui doit renoncer à l'enfance, renoncer à la stabilité de la latence, renoncer aux images idéalisées de lui-même, renoncer aux images idéalisées de ses parents. Bref, on sait bien que c'est difficile. Ceci dit, on estime qu'il y a grosso modo 20% d'adolescents en difficulté. Mais ils ne sont pas tous, loin de là, on ne peut pas tous en parler sous forme de psychopathologie. Être en difficulté existentielle, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade psychopathologiquement. Donc il faut vraiment bien avoir ça en tête, 20% d'adolescents en difficulté, d'accord, mais pas tous en termes de psychopathologie. Et sans doute l'adolescence est quand même plus difficile qu'avant, parce que ce qu'on demande aux adolescents qui sont en pleine mutation, crisis, c'est de s'identifier à des adultes qui eux-mêmes sont des adultes en évolution permanente. Hein, autrefois, l'adulte était une image plus stable pour l'adolescent. Il avait acquis un savoir-faire, il le gardait. Tandis que là, c'est d'ailleurs le succès de l'université de tous les savoirs. On va de formation permanente en formation permanente. Normalement, beaucoup d'entre nous ont passé l'âge d'être le jeudi soir à 6h30 sur un cours d'amphithéâtre, et puis on continue, hein, parce que le bon adulte, c'est l'adulte qui change. Alors quand on demande à un adolescent qui est lui-même en profond changement, physique, psychique, biologique, de s'identifier à un adulte qui change, il y a un problème de dynamique là. Et d'autre part, on lui demande de s'identifier à un adulte qui doit tout le temps changer, mais un adulte qui de plus en plus a envie de ressembler aux adolescents. C'est ce qu'on appelle les identifications à rebours. Alors ça ne lui donne pas confiance à l'adolescent. Hein. Pourquoi devenir adulte si être adulte, c'est seulement regretter son adolescence, hein. Et de ce point de vue-là, et les parents d'adolescents sont d'ailleurs à peu près au milieu de leur vie, donc ils peuvent être très envieux par rapport à l'adolescent qui, lui, a toute la vie devant soi. Et on est là dans des systèmes de conflits qui tournent. On est plus profondément que ça encore. Ce qui rend l'adolescence difficile actuellement, et qu'on a mieux compris, je crois, avec des travaux comme ceux de Philippe Jamais, c'est qu'il y a toute une thématique de l'attachement, à nouveau, chez les adolescents, comme les bébés, mais de la dépendance, surtout. Et c'est très compliqué avec les adolescents, dans les nouvelles formes de thérapie qu'on peut leur proposer, groupale, individuelle ou autre, de trouver la bonne distance. Hein? Philippe Jamec, dont je viens de parler, parle parfois de syndrome corse pour les adolescents. Il dit, si on les laisse tomber, ils se sentent abandonnés. Si on s'en approche, ils se sentent persécutés. Hein? C'est un peu ça, la Corse, quand même. Hein? Et c'est vrai que la question de la distance est un petit peu difficile à trouver, mais c'est très touchant aussi, parce qu'en fait, l'adolescent sent très bien que ce qu'il se sent persécuté précisément par ce qu'il sent comme une nécessité. C'est ce dont il a besoin, une relation de confiance, etc., de sécurité, c'est ce dont il a besoin, dont il sent lui-même qu'il a profondément besoin, mais c'est justement ça qui le persécute. Et alors, il va s'attaquer à lui-même dans certains cas, hein, ça c'est bien sûr plus grave encore, mais il va en général s'attaquer à l'adulte, pas tellement pour le détruire, mais comme le bébé, pour éprouver la solidité de l'adulte. Hein. Et je crois qu'il faut beaucoup distinguer l'agressivité de la violence. Il y a une violence qui n'est pas forcément destructrice. On peut s'attaquer à l'autre, pas tellement pour le détruire, mais pour voir s'il est cool, s'il a la force tranquille, s'il est calme. Hein. Et c'est ça qui rassure l'adolescent. Si au contraire on se volatilise, alors l'adolescent va prendre peur de sa toute-puissance, et il ne va plus rien maîtriser. Et quand il ne maîtrise plus rien, eh bien il reste toujours une seule chose qu'on peut maîtriser, c'est l'échec. Quand on n'a plus rien à contrôler, eh bien, il y a encore une chose qu'on peut maîtriser, c'est l'échec, l'autosabotage. Et évidemment, là, la voie s'ouvre pour une trajectoire extrêmement douloureuse chez les adolescents, avec possibilité de retournement sur eux-mêmes de l'agressivité en s'attaquant aux parties d'eux-mêmes qui leur font honte, qu'ils ressentent comme dangereuses, menaçantes, nocives. Philippe Jamais, à propos des adolescents, et bien sûr la question se pose plus qu'avec les bébés et les enfants, où a ouvert le débat sur la question des psychotropes, et notamment des psychotropes de nouvelle génération, qui ne peuvent jamais être un but en soi, mais qui, bien prescrits, peuvent être présentés, dans certains cas, à l'adolescent, ce que c'est l'expression de Philippe Jamais, comme un outil de liberté. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de le normaliser, l'idée est de lui redonner un certain pouvoir sur certains mécanismes qui lui échappent pour qu'après il puisse faire des choix de manière plus sereine. Alors quels sont, bien sûr il y aurait d'autres choses à dire, mais je voudrais maintenant en venir un petit peu aux enjeux conceptuels de ces nouvelles données. Parce que c'est pas tout d'accumuler des résultats ou des concepts, il faut voir qu'est-ce que ça change, quel est l'impact sur nos réflexions, sur nos modèles. Et c'est Heidegger qui disait, il faut toujours faire attention que le vrai ne se dérobe pas sous une somme d'exactitude. C'est-à-dire qu'actuellement, on accumule des études, on accumule des résultats, des statistiques, des corrélations, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça et quel impact ça a sur nos réflexions? Alors, j'irai assez vite parce que le temps passe, mais d'abord, il faut bien avoir en tête que la pédopsychiatrie, c'est un credo, mais un credo nécessaire et résolument accroché au modèle polyfactoriel. On ne peut pas avoir de raisonnement médical et linéaire en pédopsychiatrie. Vous avez vu tout à l'heure comment j'ai parlé de la vulnérabilité et des facteurs de fixation. Les séries sont toujours multiples, complémentaires. Le tout psychogène a échoué, mais le tout génétique ne marchera pas mieux. La psychopathologie, c'est au croisement des facteurs endogènes et exogènes, et toujours avec une place pour les effets de rencontre qui font que notre vie est une destinée et pas simplement un destin ou une fatalité. Deuxième réflexion issue de toutes ces données, c'est qu'on est toujours menacé de clivage. Pendant des années, on s'est battu en pédopsychiatrie sur le clivage, est-ce que c'est organique, est-ce que c'est psychique, organogenèse, psychogenèse. On a bien vu au congrès en septembre dernier, à Paris, au congrès des sociétés européennes de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, que ce clivage-là commençait à s'atténuer un petit peu, que tout le monde est d'accord pour le polyfactoriel dont je viens de parler. Peut-être qu'on y met chacun les choses un tout petit peu en dose un petit peu différente, mais quand même, tout le monde est d'accord. Il y a une espèce de consensus mou, d'ailleurs, sur le modèle polyfactoriel. Et tout de suite, il y a un autre clivage qui arrive, qui est le clivage entre une clinique de l'instant et une clinique de l'histoire. Et on a, parmi les pédopsychiatres, on a des travaux qui se concentrent sur l'instant, qui vont décrire écrire à base d'échelles, de questionnaires, de tests, de marqueurs, des choses extrêmement fines dans l'instant, mais qui oublient l'histoire. Alors, je ne vais pas refaire mon petit couplet sur l'histoire, mais il n'y a pas de sens sans histoire, il n'y a pas de sens sans temporalité. Ce n'est jamais l'évaluation la plus approfondie à l'instant T qui nous donnera le sens d'un symptôme. Le sens d'un symptôme, c'est la clinique en référence à l'histoire. Les données de la psychiatrie du bébé nous invitent, malheureusement je ne pourrais que l'évoquer, à revisiter absolument les positions constructivistes, structuralistes et phénoménologiques. Quand on travaille avec le bébé, il est évident que le bébé n'a pas la parole pour nous faire sentir un certain nombre de choses. Il va nous le faire sentir par projection, et c'est l'attention qu'on accorde à ce que le bébé nous fait vivre qui va nous permettre de savoir, d'imaginer ce qui se passe pour lui en ce moment-là. C'est une nouvelle forme, je suis un peu provocant exprès, mais c'est une nouvelle forme de phénoménologie. Le constructivisme est également relancé par la pédopsychiatrie, puisque tout se co-construit, les pulsions, quel que soit le pré-programme génétique, il faut la rencontre avec l'autre pour construire les pulsions, pour construire les émotions, pour construire les capacités d'attention, pour construire l'histoire, etc., etc. Mais je voulais dire juste un petit mot sur le structuralisme. C'est sûr que le structuralisme n'a plus le vent en poupe comme il l'avait dans les années 70. Mais il me semble que le structuralisme des années 70 était un structuralisme des États, c'est-à-dire des structures fixes qu'on essayait de repérer et de faire des liens entre différentes disciplines. Ce que le bébé et l'enfant, ce que la pédopsychiatrie nous permet d'imaginer, c'est un structuralisme des processus. C'est-à-dire que ce qui compte pour le bébé, ce qui compte pour l'enfant, ce n'est pas forcément la structure de tel ou tel comportement ou tel fonctionnement, mais c'est le passage, les oscillations, les allers-retours entre telle position, telle autre. Et chaque enfant a là un style très profond de se mouvoir entre différentes positions psychiques ou psychopathologiques. Et puis la pédopsychiatrie nous invite à penser une différence de fond entre l'éthique du sujet et l'éthique du savoir. Ça, c'est une distinction qu'on doit à Daniel Marcelli, je crois qu'elle nous est très utile. L'éthique du savoir est une chose, mais au nom de l'éthique du savoir, on ne peut pas tout transgresser en termes d'éthique du sujet. Et je n'ai pas le temps, mais bien entendu, en disant ça, j'ai en vue la question des psychotropes, qui ont une importance certaine, mais chez plus l'enfant est petit, plus il y a besoin de réfléchir à un principe de précaution minimum. Tout le monde parle de précaution sur la chaîne alimentaire, tout le monde parle de précaution pour les infections diverses, et donner des psychotropes qui vont se fixer sur les structures cérébrales chez les enfants de 2 ans ou 3 ans qui sont en train d'édifier ces structures cérébrales, il y a là quelque chose qui est non seulement choquant, mais qui interroge vraiment notre éthique de fond. Il y a d'ailleurs là une réflexion à mener, avec quelques collègues je m'y emploie, pour que le grand public ait accès aux données de l'Agence du médicament, de l'Agence européenne du médicament. Il ne s'agit pas d'avoir seulement accès aux résultats positifs, mais il faut aussi avoir accès aux résultats négatifs. Il y a beaucoup d'études de médicaments qui ne donnent rien, qui marchent mal, il faut comprendre pourquoi. Et je crois que pour l'instant, on ne peut agir là qu'avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de circonspection. Je conclurai en évoquant quelques remarques sur l'état actuel de la pédopsychiatrie dans notre société, et d'abord en remarquant que, comme nous l'a fait remarquer plutôt Jean-Yves Barrère, qui est un sociologue, c'est que l'évolution de la demande en matière de pédopsychiatrie a beaucoup changé au cours des 30 dernières années. Dans les années 70, à l'époque où s'est mise en place en France la politique de secteur, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, elle a décidément eu beaucoup de répercussions, comme vous voyez. On a voulu penser la psychiatrie hors les murs, hors le système concentrationnaire, penser l'extra-hospitalier, dans un souci de démocratie aussi et d'égalité des équipements sur le territoire. On a créé les secteurs, la politique est loin d'être menée à son terme, mais c'est une politique qui a fait l'admiration d'un certain nombre de pays étrangers, et on raisonnait beaucoup à l'époque en termes de sujets et de souffrances psychiques, grande époque du structuralisme. Actuellement, ça n'est plus du tout cela que le socius demande à la pédopsychiatrie. Le socius nous demande de réduire un certain nombre de symptômes, l'hyperactivité, les TOC, la violence, la délinquance et les abus sexuels, pour parler des domaines sur lesquels il y a eu le plus de focalisation médiatique. Alors moi, j'essaye de faire sentir que la pédopsychiatrie ne se résume pas à l'hyperactivité, aux abus sexuels, à la violence et au TOC. La pédopsychiatrie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Et il faut que on a toute une éducation des médias, sans doute, à faire pour essayer de transmettre au grand public une vision profonde, mais sans triomphalisme. La pédopsychiatrie, c'est pas de trouver demain matin le gène de l'autisme. Je vous ai dit ce que j'en pensais. La pédopsychiatrie, c'est pas de trouver demain matin une façon de s'occuper des abuseurs sexuels. La pédopsychiatrie, c'est une réflexion sur l'ontogénèse. C'est une réflexion sur la construction du sujet et de l'enfant. Et c'est quelque chose qui va bien au-delà de technique. C'est une chance pour la pensée. La pédopsychiatrie est quand même actuellement assez maltraitée, et sans doute certains d'entre vous, dans Le Monde du 10 janvier, donc c'est très récent, il y a un superbe article d'Alain Gillis qui a montré à quel point la pénurie s'installait dans notre pays. Alors c'est une chose de venir faire une conférence à l'Université de tous les savoirs, mais c'est l'occasion de dire que la pédopsychiatrie est actuellement, on dit, en grande difficulté. Faute de crédit, faute de personnel, faute de choix, faute de vocation pédopsychiatrique, il y a tout un ensemble de phénomènes qui s'ajoutent les uns aux autres. Et il y a, en plus de cela, une réduction programmée des pédopsychiatres. Alors, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, parce que l'éthique d'un pays se mesure à l'aune de l'attention qu'il accorde à ses sujets les plus en souffrance et les plus handicapés. Donc la pédopsychiatrie, quand je dis ça, c'est pas simplement pour plaider pour ma chapelle. J'essaye de faire les choses comme je peux, mais c'est l'éthique entière du pays qui est derrière ça. Si on abandonne les enfants malades mentaux à des techniques réadaptatives ou rééducatives simplistes, peu coûteuses, mais totalement inefficaces, on abandonne quelque chose de la psychopathologie, c'est-à-dire qu'on abandonne quelque chose d'un regard sur la construction de l'être humain. L'engagement présidentiel, d'ailleurs, en matière de handicap, ne doit pas faire oublier la maladie mentale, et la pédopsychiatrie, encore une fois, ne peut pas se résumer à quelques secteurs illuminés par les projecteurs médiatiques. Conclusion. Le cerveau, j'espère vous l'avoir fait senti, notamment à travers l'histoire, le cerveau n'est pas un ordinateur, et on ne pourra jamais le décrire sous cet angle-là. Je crois qu'il faut qu'on fasse tous très attention à ne pas céder au consensus tacite qui existe toujours, en tout cas le risque de consensus existe toujours entre le grand public et les médias pour exclure la complexité. Évidemment, la complexité, elle nous confronte toujours à la mort, à la sexualité, à la souffrance. Donc la complexité nous gêne. Mais la vie n'est pas facile, est difficile, le développement de la vie, l'ontogénèse est un phénomène complexe, les troubles du développement sont également complexes, et je cite parfois cette phrase d'Albert Einstein, il faut rendre les choses complexes aussi simples que possible, mais pas plus simples que possible. Il y a une complexité qu'il faut accepter. Et c'est à nous de la faire sentir aux journalistes et aux médias. Et c'est très important, parce que sinon les médias colportent une vision un peu simplifiée et un peu triomphaliste de tel ou tel. Et ça a un effet sur nous. C'est-à-dire que la manière dont les médias parlent des pédopsychiatres, qu'on le veuille ou non, à notre insu, ça influence notre façon de travailler. Donc il est urgent qu'on s'entende avec les médias pour transmettre une vision plus complexe. C'est pas délibérément complexe coûte que coûte, mais une vision plus complexe des choses. Et évidemment, il faut du temps pour ça. Il faut du temps pour ça. Et le modèle linéaire peut s'énoncer en une seconde. Le modèle polyfactoriel réclame du temps. C'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de dépasser le temps de mon exposé. Je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il faut vraiment faire très attention, encore une fois, donc que la psychopathologie ne nous soit pas dérobée. Mais il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste dans l'action, même si en ce moment, on a quelques raisons d'être un peu pessimiste dans la pensée. Il y a des raisons d'espérer. Les étudiants qu'on voit arriver actuellement en pédopsychiatrie sont très intéressés par autre chose que les grandes classifications internationales. Ils comprennent que les grandes classifications internationales ne sont pas un manuel de psychopathologie, qu'il y a du sens à trouver, il y a l'histoire à prendre en compte. Ils ouvrent des yeux grands comme ça quand on les initie vraiment à la relation. Ce qui fait qu'en dépit de tout, j'ai quand même envie de dire que les choses... Je crois que les choses vraies finissent par gagner. Il faut tenir bon. Et peut-être que la grande époque du structuralisme est dépassée, comme je l'ai dit, mais la pédopsychiatrie ramène sans doute quelque chose de l'ambition dont elle était porteuse. Dans les termes différents, je l'ai dit, mais elle ramène quelque chose de l'ambition dont le structuralisme était porteur. Et j'espère donc, en dépit de tout, vous l'avoir fait suffisamment sentir ce soir, une ambition qui est le gage d'un espace de liberté pour les enfants dont nous nous occupons. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Golz. Nous allons passer aux questions. Donc, il y a déjà une question juste devant.
Oui, bonsoir. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si on entend.
Oui. Oui.
Je voudrais vous poser deux questions. Une qui a à voir directement avec votre exposé et puis une qui est peut-être un petit peu annexe à laquelle vous me répondrez ou non, suivant votre désir.
Merci de cette liberté.
Voilà. Vous parlez du développement en dernier stade apparemment de la vie fœtale du sens de la vue chez le fœtus. Mais que voit-il ? Il est dans le noir. Qu'est-ce que cette vue lui apporte ou ne lui apporte pas ? Bon, voilà ma première question. La deuxième question est annexe. Vous faites métier d'écouter des gens qui souffrent, aussi bien des parents que des bébés. Vous faites métier, peut-être avec prétention, de soigner, en tout cas d'écouter le psychisme qui s'exprime devant vous. Donc je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce qui est en débat actuellement, de la protection du statut de psychothérapeute. Merci.
Est-ce que ça vous ennuie si je réponds à la seconde ? D'abord. D'abord, prétention de soigner, je reprends votre terme. Hein. Je crois qu'il y a eu toute une époque où les thérapeutes, effectivement, ont dit, mais enfin, certains thérapeutes ont dit, mais c'est pas forcément le soin qui est notre but. Ça, je crois que ça fait beaucoup, beaucoup de tort à la psychanalyse et peut-être à la pédopsychiatrie. Notre but est effectivement en partie un but thérapeutique. L'idée de ces personnes était de dire que la guérison ou l'amélioration, si elle doit avoir lieu, elle viendra en prime, mais que le travail n'est pas là. Le travail, c'est la compréhension, l'analyse, l'approfondissement. Il se trouve que, à la différence de certaines autres branches de la médecine, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, le fait de comprendre quelqu'un, en soi, c'est déjà un acte thérapeutique. Le fait de faire un effort, d'être en empathie avec lui, d'être en intuition, d'essayer de comprendre, de se formuler ce qu'il peut être en train de ressentir, d'éprouver, de vivre, c'est déjà quelque chose qui peut avoir un effet thérapeutique pour l'autre. Mais ça ne suffit pas. Simplement, je crois qu'il faut être très prudent malgré tout. Hein, et je le redis haut et fort, je ne sais pas si j'aurais dit le mot de prétention de soigner, mais il y a une ambition thérapeutique dans le projet pédopsychiatrique. On n'est pas contemplatif et on n'attend pas que la guérison vienne comme ça. Simplement, j'aurais peut-être pas pris le mot prétention de soigner, parce que malheureusement, en tout cas en 2004, il y a beaucoup de situations qui ne vont pas guérir. Hein, le soin, il a derrière lui l'idée de guérison. Normalement. Et en pédopsychiatrie, je crois que ce qui est difficile et ce qui demande beaucoup de temps, sans doute, et puis beaucoup de modestie et de sécurité narcissique, c'est que tout au long de sa vie, il faut garder le désir d'aider, mais en partie perdre l'illusion de guérir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas d'ambition thérapeutique. Mais le désir d'aider est déjà en soi une grande étape. Alors le désir d'aider, moi je comprends très bien que les parents aient besoin et envie de savoir à qui ils confient leurs enfants. D'autant plus qu'il s'agit de soins qui vont se dérouler dans le temps, très souvent, qui vont être longs, pour les enfants, pour certains enfants en tout cas, qui vont ménager un espace de non pas de secret, mais d'intimité entre l'enfant et le thérapeute, dont les parents ne sont pas exclus, mais dont il faut qu'ils soient un petit peu à distance pour que l'enfant ait toute liberté de s'exprimer, je comprends tout à fait que les parents aient besoin de savoir à qui ils confient leurs enfants. D'ailleurs, je pense que si on dit non, c'est vrai dans toutes les autres disciplines, mais ça n'est pas vrai dans la nôtre, il y a là une attitude un peu provocante et quelque part suicidaire. Et il me semble que parmi les professionnels en pédopsychiatrie, on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait pouvoir mettre en place un système qui donne une certaine transparence, en tout cas une certaine confiance dans la qualité de la formation des thérapeutes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs pour autant, c'est pas parce qu'on a eu une bonne formation qu'on va forcément être bon thérapeute avec tel enfant. Il n'y a aucune garantie, dans la rencontre humaine. Mais quand même, pour les parents c'est important. Mais les ennuis commencent là. Les ennuis commencent là parce que chaque fois qu'on veut fixer un critère de qualité de formation, on tombe sur des difficultés. Et en tout cas, moi aujourd'hui, ce que je veux dire avec netteté, c'est que dans l'amendement Accoyer, et surtout dans la version souple qui a l'air d'émerger, il y a quelque chose qui est très choquant de penser que simplement parce qu'on a fait médecine ou psychologie, on est thérapeute. C'est ce qui va être proposé, que l'enregistrement en termes de thérapeute soit accordé de droit aux personnes médecins ou psychologues. La formation complémentaire est indispensable, hein, contrairement à d'autres pays. Oui, mais au niveau européen, il y a une tendance très forte à donner le label de thérapeute à la sortie du cursus de base de psychiatrie ou de psychologie. Là, il y a là une erreur de fond, parce que dans le cursus de base, on ne peut que donner une sensibilisation à la technique, aux techniques psychothérapeutiques qui demandent ensuite un chemin personnel. Voilà. Alors après, le deuxième grand problème, c'est qui évalue qui ? Qui évalue qui ? Et là, il y a un énorme travail à faire pour essayer de régler les problèmes de pouvoir. Et je le dis sans fausse modestie, mais il faudra certainement qu'il n'y ait pas que des universitaires dans les commissions d'évaluation. La psychothérapie ne s'apprend que très partiellement à l'université. Et il faut en tenir compte dans le choix de la composition des commissions. Alors je viens ensuite à la question de la vue, puisque vous me demandiez un petit peu comment je voyais la question des formations des thérapeutes, et avant vous m'avez demandé si le fœtus est clairvoyant. Alors je ne sais pas si le fœtus est clairvoyant, mais le fœtus, dans la suggestion que j'ai donnée, toucher, olfaction, goût, audition, visuel. Le visuel est prêt en dernier. Mais à la naissance, il est très prêt. Très prêt, P-R-E-T. Hein. Le système visuel cortical, des nerfs visuels, de la rétine, est très mature à la naissance. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a servi. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il serve vite. Ça, c'est très important pour nous. Hein. Dans l'utérus, il y a beaucoup de perceptions qui sont accessibles au bébé, des modifications de pression, des modifications des sons qui arrivent ou qui n'arrivent pas à l'oreille du fœtus, qui va inscrire, qui sont sans doute très organisatrices pour la façon dont il va trier aussi les sensations après la naissance. Vous avez raison de penser que la vue, que les variations de luminosité intra-utérine sont probablement plus discrètes. Elles ne sont peut-être pas totalement zéro d'ailleurs, mais enfin elles sont sans doute plus discrètes. Eh bien justement, ça nous invite à penser que si son système visuel, sur le plan neurophysiologique, est très mature à la naissance, il a besoin d'être utilisé très vite. Et très vite, ça veut dire que, en particulier, enfin les ophtalmos le savent mieux que moi, mais s'il y a un problème ophtalmologique très précoce, il a intérêt à être réglé vite. Car si le système visuel qui est prêt ne sert pas, là, il va y avoir des phénomènes de régression ou de dégénérescence. Et contrairement à ce qu'on a pu penser, sans doute le fœtus voit à la naissance les choses différemment que de nous, mais il voit. Hein, mais simplement, il y a des visions. Moi, je me représente un peu les choses comme certains génériques de films. Vous savez, au début, pendant que les choses sont floues, hein, pas très facile à repérer, un peu mélangé, intriqué, fugitive, dynamique. Et puis tout d'un coup, la mise au point se fait. Hein. Mais le fœtus, au début, il nous voit sans doute en bidimensionnalité, il nous voit comme des... Les peintres, sans doute, renouent avec cette vision-là parfois. Hein. C'est-à-dire des taches de couleurs, des oppositions, des mouvements de couleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous voit pas, ça veut dire qu'il nous voit dans une certaine fenêtre optique, puis que les choses vont progressivement. Mais il a besoin absolument de pouvoir utiliser ses yeux, parce que sinon le système visuel qui est mûr va régresser.
Vous nous avez dit, le bon adulte, c'est l'adulte qui change. Adulte, étymologiquement, qui a cessé de grandir, privatif. Ne faudrait-il pas dire, le bon adulte, c'est celui qui a renoncé à l'être pour pouvoir continuer à grandir dans toutes ses dimensions. Peut-être le stade post-adolescent. Une question de chercheur, une question d'omnipraticien.
Ça, c'est pas une question, c'est un partage. Hein.
Une question de chercheur, une question d'omnipraticien. Je voudrais vous voir développer un aspect que vous avez évoqué. À l'origine des désordres psychiques de l'enfant ou comme facteur aggravant, que pensez-vous de l'éventuelle responsabilité de facteurs environnementaux tels que résidus de pesticides, monomères plastiques et autres disrupteurs hormonaux stéroïdes-like, les facteurs alimentaires, nourriture et boissons rapides, voire comprimées ou édulcorées, les facteurs nutritionnels ou médicamenteux pouvant générer, par exemple, un excès de fluor, de mercure ou d'aluminium, auxquels certains enfants pourraient être plus vulnérables que d'autres. En d'autres termes, quelle part consentez-vous aujourd'hui à la chimie métabolique du neurone et à ses perturbateurs exogènes dans le développement harmonieux de la personnalité de nos enfants?
Mais je ne peux vous faire qu'une réponse de pédopsychiatre, justement, hein, puisque je ne suis pas spécialiste de toutes les disciplines que vous évoquez là. Ce que je veux vraiment dire, c'est que même quand les choses sont très génétiques, il y a toujours une place pour des effets de rencontre, relationnels ou autres, et éventuellement des rencontres dans l'écologie. Je prends toujours cet exemple-là parce que je crois que tout le monde le connaît. Il y a une maladie génétique des enfants qui nous paraît qui a longtemps paru le fin du génétique, c'est la phénylcétonurie. La phénylcétonurie, c'est vrai qu'il y a un problème qui est inscrit dans nos gènes. Mais si l'enfant ne rencontre pas, alors je crois que ça rejoint un petit peu la série de faits que vous avez évoqués, si dans son régime alimentaire, l'enfant ne rencontre pas la phénylalanine, il a beau être porteur du gène, il ne sera pas malade, il ne va pas développer l'encéphalopathie. Donc ça veut bien dire qu'aussi génétiquement inscrite soit cette maladie-là, c'est bien dans la rencontre avec un événement de l'extérieur que la pathologie va s'engrener, va démarrer. Alors moi je serais extrêmement modeste, je dirais pour l'instant dans la série de facteurs primaires de vulnérabilité ou dans la série de facteurs secondaires de fixation d'une vulnérabilité, il y a peut-être tous les facteurs que vous évoquez là. Dans 50 ans, on en saura beaucoup plus sur ces pistes-là. Pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, j'espère. Mais simplement, ce qu'on observe, c'est que le modèle polyfactoriel, il est assez long à énoncer, et c'est difficile de s'y tenir coûte que coûte. Et il faut faire attention, dans nos relations avec les parents, c'est les parents visitent Internet, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a l'université de tous les savoirs dessus, ils ont accès à toute une foule de données extrêmement importantes, et ce qu'il faut faire attention, c'est là aussi des phénomènes de clivage. Même si un jour on démontre que tel facteur que vous avez dit là a un rôle dans la vie, ça ne disqualifiera pas tous les autres. Et il faut éviter, et bien sûr les parents ont tendance à s'accrocher à des choses un peu concrètes qui je crois les privent d'une vision d'ensemble à mon avis plus intéressante. Voilà. Alors je ne peux pas vous répondre en termes de vérité ou pas vérité, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, on verra mieux dans 50 ans. Ce que je sais, c'est que déjà, ces pistes-là, elles sont intéressantes, mais elles peuvent être utilisées de manière très défensive et restrictive, et qu'on a à faire la part des choses. Le prototype pour nous, c'est les régimes sans gluten avec l'autisme infantile. Peut-être que vous aviez ça en tête aussi. Actuellement, c'est très difficile de dire quelle est, dans l'absolu, la part de vérité là-dedans. Il faut chercher, mais avant qu'on ait trouvé, on voit des gens qui se servent de ça de manière défensive contre le modèle global de l'autisme infantile.
Oui, vous évoquiez au début de cet exposé concernant justement pour le couple l'attente du bébé, cette période, toute cette période d'attente fantasmatique autour de l'enfant. Justement, enfin, quelque chose que j'appréciais beaucoup, que vous avez pris soin de préciser, de laisser cet espace à l'inattendu,
l'imprévu,
cet espace de liberté qui est la vie, finalement. Et je me demandais justement, à reculer comme ça dans le temps, chronologiquement, par rapport à l'adulte, enfin le cheminement dont vous parliez tout à l'heure, je me demandais si finalement, à force d'étendre cet accompagnement dans toutes les phases de la vie. Est-ce que quelque part, paradoxalement, ça n'amenait pas une espèce de réduction, enfin de quelque chose justement, une entrave à cet espace de liberté, d'inattendu et d'imprévu? Et comment ça se passe pour vous dans votre pratique quotidienne, où ça commence, où ça s'arrête?
Non mais bon, à cette heure-là, je peux que vous répondre par une pirouette. Hein. C'est-à-dire que je suis pris entre deux idées. À la fois, je crois vraiment que tout ce qu'on apprend sur les tout débuts du temps du développement psychique a de l'importance pour la suite, parce que ça organise des choses. Par exemple, les enfants qui sont privés de leur enfance, pour les tas de raisons que je n'ai pas évoquées ce soir, ils ont du mal après. Donc chaque étape, chaque pas a de l'importance pour la suite. Mais en même temps, je suis assez d'accord avec Boris Cyrulnik quand il dit « Tout se joue avant 120 ans hein ».
Belle pirouette. Nous passerons à la dernière question, alors le monsieur au milieu.
Merci. Tout d'abord, avant de poser ma question qui sera simple, je tiens particulièrement à vous remercier de votre exposé qui était d'une clarté pédagogique tout à fait parfaite. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le milieu médical et j'ai quasiment suivi 95% de votre exposé, ce qui est rare. Alors, ma question est tout à fait simple. Vous avez dit au début, il faut que les parents soient surpris. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'annonce du sexe de l'enfant aux parents?
Mais la question, c'est pas de savoir si je suis pour ou contre. La question, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, à nouveau, de plus en plus de parents n'ont pas envie de savoir. Et ça, nous, on peut s'interroger là-dessus. Hein. Je crois qu'ils ont envie de jouer avec l'idée, certains jours, que c'est un garçon, certains jours, que c'est une fille, certains jours, que c'est les deux à la fois. Et voilà. Hein. S'ils n'en ont pas envie, c'est qu'il y a des raisons.
Merci, monsieur Golz.